Ça va. D'être avec vous ce matin, puis un défi en même temps, parce que c'est le défi d'être le porte-parole de la parole de Dieu. Donc, c'est toujours un grand défi pour moi. Ce matin, de quoi pensez-vous que je vais vous parler? All right, j'espère de la parole, et de la parole, et de la parole. Je vais vous parler de la parole de Dieu ce matin. C'est le quatrième message sur la parole de Dieu. Le premier message que j'ai apporté, c'était sur la Bible, un livre sacré et fiable. On a vu ensemble que la Bible, elle est vraiment la parole de Dieu parce qu'elle a été inspirée de Dieu. Dans son entier, elle est infaillible, inhérente, c'est-à-dire sans erreur. Et on a vu ensemble comment Jésus-Christ, celui qui est la révélation de Dieu même, a endossé ce livre comme étant la parole de Dieu. Jésus a dit, « Ta parole, ô Dieu, est la vérité. » Ensuite, on a vu un deuxième message sur la Bible, un livre qui transforme. On a regardé à partir du psaume 19 les qualités ou les caractères de la parole de Dieu et ses effets sur ceux qui l'observent. Le psaume, la partie du psaume qu'on a regardé termine en disant « Pour ceux qui l'observent, la récompense est grande. » Le troisième message, on a regardé l'instrument de Dieu pour découvrir la vie qu'il t'a promise, la vie qu'il t'a donnée. Puis on a vu ensemble que c'était encore une fois la parole de Dieu. Le thème de ce message était concentré surtout sur notre responsabilité individuelle en tant qu'enfant de Dieu de recevoir humblement cette parole qui a été plantée en nous et qui nous a donné la vie et que cette parole, elle est efficace pour sauver nos âmes. Cette parole nous a conduit à Christ pour être régénérés, mais non seulement nous conduit à Christ, mais cette même parole aussi nous conduit et nous révèle la vie que Dieu nous a donnée en son Fils. Pour que nous puissions la saisir et la vivre par la foi. On a vu dans ce message qu'il faut faire attention pour ne pas se laisser tromper en pensant qu'on a rempli notre engagement envers Dieu juste à écouter la parole. C'était dans Jacques chapitre 1. On ne doit pas juste écouter, se contenter d'écouter, mais on doit aussi la mettre en pratique. Le verset dit dans Jacques 1, 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Celui-là, celui qui aura plongé, qui aura regardé, retenu, gardé, et répondu à ce commandement, à la parole de Dieu. Ce matin, ce que nous allons regarder, c'est la place que la parole de Dieu doit occuper dans l'Église locale. Donc, on va regarder ensemble que la Bible est vraiment le moyen de grâce par lequel Dieu communique à son peuple. Je vais vous inviter à commencer par plonger pour aller back in time En tout cas.
Dans le passé.
Oui, on va reculer dans le passé et on va aller dans le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, je vous invite à tourner dans 2 Rois, chapitre 22. J'espère que vous avez amené vos Bibles le matin parce qu'on va faire une assez bonne lecture d'un grand réveil qui s'est passé 600 ans, excusez, avant Jésus-Christ avec le peuple de Dieu, le peuple de Juda. Ensuite, on terminera avec quelques exhortations qui nous est données par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ sur ce même sujet. On va prendre un temps, si vous voulez bien, pour se tourner au Seigneur. Grand Dieu, on vient devant toi. Et nous savons, Seigneur, nous sommes conscients que tes regards sont sur nous aujourd'hui. Parce que tu es un Dieu qui est omniprésent et omniscient. Tu nous vois tous et tu nous connais tous par notre nom. Et Seigneur, c'est ta parole qu'on ouvre ce matin. Et nous prions que tu puisses nous illuminer, nous aider, nous diriger, pour pouvoir saisir, Seigneur, le message que tu veux nous partager ce matin. Je prie que tu m'aides, que tu me conduises, pour ne pas être un obstacle, Seigneur, mais un outil dans tes mains. Sois glorifié par nos cœurs, par ton Esprit Tout-Puissant qui est là, parmi nous, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, 2 Rois, chapitre 22, vous êtes prêts? Vous avez votre Bible? J'espère que vous avez votre Bible le matin. Parce que quand on vient ensemble pour adorer le Seigneur, on ouvre son livre pour voir ce qu'il y a à nous dire. 2 Rois, chapitre 22. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja de Botskat. Ici, peut-être, on prend une petite pause. C'est bon de souligner que Josias était aussi fils d'Amon et fils, petit-fils de Manassé. D'avoir comme père Amon et comme grand-père Manassé, c'est pas la plus belle chose à avoir comme parent et grand-parent. Parce que ces deux rois étaient probablement dans les pires rois qui existaient sur le peuple Israël, sur le peuple de Juda. On lit en 2 Rois, chapitre 21, Manassé, puis là, on va lire l'histoire, mais une fois de temps en temps, je vais tirer des élastiques de d'autres passages juste pour essayer de se placer dans le contexte. Puis à ce moment-là, vous pouvez juste me regarder, puis on va retourner dans notre lecture. Ça va? All right. Donc, 2 Rois 21 nous dit ceci au début du chapitre. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Aphtsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Et nous lisons en 2 Rois 21, versets 19 à 24, son fils Amon. Lui, il avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulemet, fille de Harut de Jabba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toutes les voies où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Donc, Josias, âgé de 8 ans, est devenu roi de Juda. C'est assez choquant, mais j'aimerais pas voir un enfant de 8 ans assis sur le trône en train de gouverner le Canada ou l'Amérique du Nord. Mais c'est quelque chose qui se faisait dans ce temps-là, puis sûrement, il y avait des tuteurs autour d'eux pour les enseigner dans ce qu'ils savent devant eux, les préparer à cette responsabilité. Verset 2. On repart. Il fit ce qui est droit. Josias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père, et il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Wow! Ces chroniques, là je sors dans notre texte pour une autre petite information. Chroniques, c'est dans... Parce que chroniques, deux chroniques, chapitre 34, c'est l'histoire parallèle de Josias qui est écrit. Verset 3 nous dit la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, à 16 ans, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, à 20 ans, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. Il faut se poser une question à ce moment-ci. Qu'est-ce qui a motivé Josias à ne pas faire comme son père et son grand-père, puis à rechercher l'Éternel? Par essence, ça, c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu vient toucher le cœur d'une personne, puis lui met à cœur de le chercher. Mais là, je tire un autre élastique, parce que un des prophètes contemporains de Josias est le prophète Sophonie, un nom qu'on ne dit pas souvent. Et Sophonie a écrit justement sur un jugement sévère que Dieu s'apprête à faire tomber sur son peuple, Juda. Puis on lit dans Sophonie chapitre 1, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Gadelia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. On ne prend pas le temps de lire le premier chapitre de Sophonie, mais Sophonie dit, attention, Dieu va vous châtier. Le jugement de Dieu s'en vient sur vous à cause de votre péché, à cause de votre idolâtrie. Mais au chapitre 2, versets 1 et 3, Sophonie a un message pour le peuple. Il leur dit, « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Et c'est sans doute en entendant ce message que le jeune roi, à l'âge de 16 ans, s'est mis à rechercher l'Éternel, le Dieu de son grand-père, grand-grand-père David. par la grâce de Dieu. Moi, je trouve ça merveilleux que Dieu nous amène à voir que dès son jeune âge, ce roi qui a apporté un grand réveil à Israël a commencé à chercher l'Éternel. Puis j'aimerais vous dire, les jeunes, attendez pas. N'attendez pas pour rechercher l'Éternel. Verset 3. On repart. La dixième année, la 18e année du roi Josias, c'est-à-dire à l'âge de 26 ans, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Asalia, fils de Meshulam, il lui dit, monte vers Elkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. Donc, non seulement le pays était rempli d'idolâtrie de toutes sortes, mais la maison de l'Éternel était également en ruine, en très mauvais état. Et c'est sans doute lorsque le roi Josias a commencé à purifier le peuple, Juda puis Jérusalem, qu'il a installé aussi la requête ou l'offrande qui était requise pour l'entretien du temple et le service des prêtres, des souverains sacrificateurs. Et maintenant vient le temps où ce que une bonne somme a été amassée dans le temple et le roi envoie son serviteur, le secrétaire, pour aller mettre devant ce projet. Verset 5. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les acheteurs de bois et de pierre de taille nécessaires aux réparations de la maison, mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité, ou ils agissent avec honnêteté. Je tire un autre élastique de deux chroniques. Au moment où l'on sortit l'argent, 34, verset 14, qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Elkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Verset 8. Verset 8 dans votre Bible. Alors, Elkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Elkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Vous imaginez? La parole de Dieu perdue dans la maison de Dieu. La parole de Dieu perdue dans la maison de Dieu. On peut à ce moment-ci commencer à s'imaginer pourquoi le peuple est en déclin spirituel. La parole de Dieu, c'était la Pentateuque. C'était à ce temps les cinq premiers livres de Moïse. Et puis Moïse avait donné l'ordre de mettre ce rouleau, ce document, dans le temple de Dieu, dans le tabernacle qui devint ensuite le temple. Puis il devait être mis aux côtés de l'arche de l'Alliance et préservé là. Mais durant le travail qui commence, la rénovation qui commence, on commence à sortir les trésors qui ont été amenés dans le temple pour faire la rénovation. Tout d'un coup, le prêtre, le sacrificateur, trouve la parole de Dieu qui a été perdue dans la maison de Dieu. Osée 4:6, qui est un prophète, qui a parlé sur le peuple de Dieu, Israël. Il faut que je donne ça un petit peu pour essayer de... Là, Juda et Israël sont séparés à un moment donné. Israël a déjà été emporté en déportation par les Assyriens. Osée était un des prophètes qui a exercé son ministère avec les 10 tribus du Nord, qui étaient Israël, et puis il leur a dit aussi qu'un jugement s'en venait sur eux. Au temps du roi Josias, Israël est déjà déporté. Ce n'est que la tribu de Juda qui demeure à Jérusalem. Osée avait dit à son peuple Israël, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Dieu dit, je te rejetterai, je te serai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, du ministère que tu as reçu. Le Proverbe 29, 18 dit ceci, quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais bienheureux celui qui garde la loi de Dieu. Le peuple de Dieu était en déclin spirituel. Le peuple de Dieu était loin de Dieu, vivait dans l'idolâtrie parce qu'il n'avait plus la vision de Dieu. Il n'avait plus la parole de Dieu dans leurs mains. Verset 9, dans notre chapitre. Puis, Shaphan le secrétaire alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan le secrétaire dit encore au roi, le secrétaire Elkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbar, fils de Miché, et à Shaphan, le secrétaire, et à Asadja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Judas. Au sujet de paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Verset 14, le sacrificateur Elkija, Achikam, Akbar, Shaphan et Asadja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Hara, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. » Verset 16, « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu, et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Wow! Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché. parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en attendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent ces paroles au roi. Il faut s'arrêter quelques instants ici pour faire une analyse. Vous êtes-vous déjà demandé comment Dieu réagit? Plusieurs pensent que Dieu est un être distant, impersonnel, un peu inconscient puis insouciant de ce qui se passe autour de nous ou de ce que nous faisons de bien ou de mal. C'est ce que la majorité du peuple de Juda pensait dans ce temps-là. C'est ce qu'on lit, j'ai utilisé la note élastique du livre de Sophonie, le prophète, dans le malheur qu'il leur partage et qui s'en vient, Dieu dit, en ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtirai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Dieu est lointain, un Dieu impersonnel, une puissance, quelque part. C'est là où le peuple de Dieu en était. Mais comment est-ce que notre texte nous dit que Dieu réagit? Il faut porter attention à ça, frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu nous révèle ce que notre œil ne peut pas voir. Ce que la parole, notre texte nous révèle ce matin, c'est que Dieu voit, Dieu entend, il a des émotions et il agit. Dieu voit, Dieu entend, il a des émotions et il agit. Ce qu'on retrouve dans notre texte, c'est que Dieu est en colère. Dieu est en colère contre le peuple, son peuple, le peuple de Juda. C'est ce que Josias a lu dans le livre de la loi. Et après avoir lu ce livre, il a déchiré ses vêtements, puis il a dit, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda. Au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi à la parole de ce livre et n'ont pas mis en pratique tout ce qui est inscrit. Et la prophétesse dit de la part de Dieu, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Dieu a vu son peuple. Dieu a vu le péché de son peuple. Dieu a vu toutes les désobéissances que tout et chacun ont apporté vis-à-vis ses commandements, vis-à-vis sa loi. Et vous savez quoi, frères et sœurs? Dieu voit également aujourd'hui chacun de nos vies. Dieu voit où nous en sommes avec lui. Dieu voit le sérieux que nous lui apportons, la sincérité de nos cœurs vis-à-vis de lui. Et de même que la parole de Dieu démontre et déclare que Dieu était en colère contre son peuple, Dieu est aussi en colère contre ce monde qui est sans frein. Quant à ce monde qui vit dans l'impiété, dans l'injustice et le péché. Ce matin, on a chanté beaucoup sur l'amour de Dieu. On chante beaucoup moins sur la colère de Dieu. Mais Dieu nous révèle dans sa parole qu'il est un Dieu en colère contre le péché. Parce qu'il est un Dieu trois fois saint. Et que le péché est une rébellion directe à sa personne. Romains 18 nous dit ceci, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Notre texte nous démontre aussi que Dieu a remarqué la réaction du roi face à sa parole. On lit au verset 18, 19 et 20. C'est vraiment précieux, c'est passé à ces versets-là. L'Éternel, ou la prophétesse, dit, au verset 18, je prends une gorge d'eau. Et vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en attendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, verset 20, « Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent au roi ces paroles. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait tomber sa colère plus tôt? Pourquoi est-ce que Dieu a retardé sa colère qui était imminente? Ézéchiel 18, 23 nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? La parole de Dieu nous dit que Dieu est patient. Dieu est patient. Plusieurs se moquent. 2 Pierre dit, plusieurs dans les derniers jours vont se moquer en disant, où est l'avènement du Seigneur? Où est cette colère qui est supposée de tomber sur notre monde? 2 Pierre 3, 9 nous dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est la patience, l'amour et la grâce de Dieu envers nous. Josias nous démontre un exemple de ce qu'est la repentance. Josias n'est pas repentant et désolé et triste parce qu'il vient de se faire prendre dans quelque chose qu'il voulait obtenir puis faire. Mais Josias, c'est triste. Parce qu'elle s'approcha de Dieu, il vient de découvrir son péché. Il vient de découvrir qu'il a péché contre son Dieu, qu'il s'est rebellé contre lui. Et à cause de son péché, la colère de Dieu est grande vis-à-vis de lui, vis-à-vis son peuple. Et Josias pleure devant Dieu. Est-ce que vous avez déjà pleuré devant Dieu? Lorsque Dieu vous a révélé que vous étiez pécheur et que vous étiez sous sa colère. Il y avait beaucoup de gens dans Juda qui se voyaient et se croyaient comme le peuple de Dieu. Ils avaient une certaine religiosité, comme plusieurs aujourd'hui dans nos églises. On va à l'église, on essaie de notre mieux, on lit de temps en temps la parole de Dieu, parce qu'on sait que c'est la chose à faire. Mais sans qu'il n'y ait jamais eu vraiment de repentance, sans qu'il n'y ait jamais eu vraiment une foi, une confiance placée dans l'œuvre de la croix de Jésus, réalisant que nous sommes sous la colère et que nous sommes sur le chemin de la perdition. Est-ce que Dieu vous a révélé cette vérité dans sa parole? Ésaïe 53, 6, 8 nous dit ceci. Nous tous, qui étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. La parole de Dieu nous révèle qu'il ne suffit pas de se repentir de nos péchés et de regretter d'avoir transgressé contre les commandements de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu, dans son grand amour, a offert son Fils, Jésus, qui a pris, lui, la colère à votre place, à ma place. Et c'est en plaçant notre foi en lui, notre confiance en lui, que nous pouvons recevoir le pardon de Dieu et une nouvelle vie. Avec Dieu. Jérémie 29, 13 dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et ça, ce n'est pas le fait d'être assis ici dans une église évangélique chrétienne que vous avez votre place dans le ciel. C'est seulement si vous avez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie que vous avez votre place dans le ciel. Avez-vous cherché le Seigneur Dieu de tout votre cœur? Si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, vous le trouverez. Dieu se révélera à vous. Et c'est ce que Dieu a fait avec Josias, qui l'a cherché de tout son cœur. Le roi Josias chercha le Seigneur, comme il était encore jeune, à l'âge de 16 ans. Il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et Dieu se révéla à lui comment? Dieu apporta sa parole à Josias. Dieu apporta son livre de la loi à Josias pour que Josias prenne connaissance du Dieu de David. La parole de Dieu. Cette parole avait été oubliée. Cette parole avait été mise de côté. On ne la connaissait pas. Puis on s'imaginait par nos propres pensées que tout allait bien avec Dieu. Même le roi Josias aurait dû connaître pratiquement par cœur la parole de Dieu. Parce que Moïse va dire, en préparation de la terre promise, je tire un élastique, en Deutéronome 17, 14, 20, « Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Quand il siégera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre son Dieu, l'Éternel, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, et afin que son cœur ne se lève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne des commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Et Josias n'avait pas ce document, parce que ce document n'avait plus d'importance pour le peuple de Dieu. Et pourtant, le texte nous rappelle l'importance de ce document. Le texte nous rappelle que ce document était en fait la voix même de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Vous tournez, regardez dans le verset 19. Je lis verset 18-19. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Verset 19. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en attendant quoi? Ce que j'ai prononcé. Faut vous souvenir ça. Ce que j'ai commandé. Ce que j'ai prononcé. Dieu disant à travers son prophète que ce que le roi Josias avait lu était la parole, la voix même de Dieu qui était écrite dans ce document. C'est par sa parole écrite, frère et sœur, que nous entendons la voix de Dieu. Et c'est à cette parole que Josias a répondu. Ce qui a suivi, chapitre 23, verset 1, on continue notre lecture, un grand réveil a suivi. Chapitre 23, verset 1. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le prophète et tout le peuple, excusez, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade. Il traitait alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre L'Éternel et à observer ses commandements, ses préceptes, ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Verset 21, le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'alliance. Verset 22, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Verset 24. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphins et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique la parole de la loi écrite dans le livre que le sacrificateur Elkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 25, avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Seigneur, bénisse sa parole dans nos cœurs. Chaque grand réveil et réforme qui s'est produit, soit en Israël, avec le peuple de Dieu, ou dans l'Église, dans le Nouveau Testament, s'est produit lorsque la parole de Dieu a été mise au centre de son culte, reconnaissant ainsi son autorité et reconnaissant que la parole de Dieu, la Bible, est la voix même de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. C'est dans les années 1600 de notre ère qu'un autre grand réveil, connu sous le nom de la réforme protestante, a eu lieu sous la direction de Martin Luther et quelques autres. Ils sont retournés à la Bible comme source d'autorité finale pour découvrir en soi que l'homme n'est pas justifié grâce aux œuvres et aux sacrements de l'Église, mais simplement et seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est par la redécouverte du message de la Bible qu'ils ont redécouvert Christ. Et en même temps, à quel point l'Église s'était éloignée de la vérité en bâtissant leur doctrine sur des commandements d'hommes au lieu des commandements de Dieu, qui viennent de Dieu. C'est là que la sola scriptura est devenue une des doctrines de la réforme protestante. Vous avez entendu ce terme? Je sais que Jérémie est en train de lire un livre intitulé « Sola scriptura ». Sola scriptura est une expression qui vient du latin et qui signifie que l'Éternel seul, l'Écriture seule est la parole de Dieu et qu'elle est la seule norme de foi et de l'Église. Sola scriptura, une expression latine qui signifie l'Écriture seule est la parole de Dieu et qu'elle est la seule norme de foi et de l'Église. J'ai trouvé une information sur sola scriptura, puis je vais vous lire, c'est un petit paragraphe qui parle un peu du témoignage de notre cher Martin Luther. La sola scriptura était le cri de ralliement de la réforme protestante. Pendant des siècles, l'Église catholique avait conféré à ses traditions une autorité supérieure par rapport à la Bible. Cela a fait naître plusieurs pratiques qui étaient en fait contraires à la Bible. Au nom de celle-ci, la prière aux saints ou à Marie, l'Immaculée Conception, la transsubstantiation, le baptême des enfants, les indulgences et l'autorité papale. Martin Luther, fondateur de l'Église luthérienne et père de la réforme protestante, reprochait publiquement à l'Église catholique ses enseignements non bibliques. L'Église catholique menaça Martin Luther d'excommunication et de mort s'il ne se rétractait pas. La réponse de Luther fut « moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, je suis lié par le texte de l'Écriture que j'ai cité et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis autrement que Dieu me soit en aide. Amen. » J'aimerais vous souligner la conversion de Charles Spurgeon. La conversion de Charles Spurgeon s'est produite le 6 janvier 1855, ou 1850, excusez, à l'âge de 15 ans. Charles Spurgeon a grandi dans un foyer chrétien, mais il ne connaissait pas le Seigneur dans son cœur. Il savait que son cœur était troublé. Il savait qu'il n'avait pas la paix de Dieu face à sa rencontre et son appointement qu'il aurait un jour avec Dieu. Puis le dimanche matin, comme il se dirigeait vers une église en pleine tempête de neige, un petit peu comme un matin, peut-être pas aussi intensif, c'est neige un matin. Mais la tempête était tellement sévère qu'il a dû prendre un raccourci dans la ville et puis rentrer dans une petite chapelle primitive méthodiste à Colchester. Et là, la tempête était tellement sévère que même le pasteur n'a pas pu s'y rendre. C'était une personne comme moi et vous qui a dû aller à l'avant pour ouvrir la parole de Dieu. Il dit quand il est rentré là, il y avait comme 10-12 personnes puis il chantait tellement fort que ça lui cassait les oreilles. Mais dans son cœur, il se disait en lui-même, je m'en fous. Peut-être qu'ici, Dieu va me donner les mots, les paroles que j'ai besoin pour trouver la paix avec Dieu, avec lui. Et cet homme, qu'il appelle peut-être un shoemaker, un cordonnier, s'est levé, puis a partagé le verset en Ésaïe 45, 22, disant, « Regardez à moi, vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Car c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Et ce prédicateur a resté sur ce passage. Puis à un moment donné, il a pointé le jeune homme, Charles Spurgeon, qui a dit, « Jeune homme, tu as l'air d'un homme malheureux, un jeune homme malheureux. » Puis il l'a invité à regarder à celui qui pouvait le sauver, celui qui pouvait pardonner ses péchés, celui qui avait tendu ses mains pour être crucifié sur une croix, qui était mort pour lui, ressuscité et maintenant assis à la droite de Dieu. Puis Spurgeon a dit, « Une lumière s'est faite dans mon cœur. » Puis Dieu m'a accordé la grâce de regarder vers celui qui pouvait me sauver. Et je n'ai rien fait d'autre que de regarder et de me confier en celui qui avait fait tout le travail pour sauver mon âme. Et sa vie a été transformée. Sa vie a été transformée par un grand prédicateur? Non. Sa vie a été transformée par la parole de Dieu, par la voix de Dieu, qui a été proclamée en pleine faiblesse dans une petite église méthodiste. Et cet homme est devenu un grand prédicateur. Frères et sœurs, on conclut. Aujourd'hui encore, le peuple de Dieu doit demeurer éveillé vigilants et engagés pour garder la parole de Dieu au centre de nos vies et au centre de nos rassemblements d'église. Parce que la parole de Dieu est l'instrument par lequel Dieu, par son esprit, fait entendre sa voix et parle à nos cœurs. On n'a pas besoin de philosophie d'homme. On a besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous devons être sur nos gardes pour ne pas tomber sur cette tendance que nous avons en tant qu'humains de vouloir soit trouver une nouvelle avenue qui semble mener à des plus belles et des plus riches bénédictions de Dieu, ou de chercher à adopter une façon qui va fonctionner puis qui va attirer les gens de la culture qui nous entoure. Ce n'est pas les méthodes humaines qui vont amener des gens à la conversion et à la repentance. C'est la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu qui amène la régénération. Et ce travail-là, frères et sœurs, c'est à vous et à moi. Cette responsabilité-là vous revient et me revient en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée de Dieu, de s'encourager, de se fortifier pour mettre la parole de Dieu au centre de nos vies et mettre la parole de Dieu au centre de nos assemblées d'Église, de notre culte d'Église. Puis je termine avec ce passage dans Éphésiens, c'est une exhortation de l'apôtre Paul. À Éphésiens chapitre 4, 11 à 16, parlant de Jésus, lorsqu'il est retourné au ciel après avoir accompli notre salut. C'est dit au verset 11, « Il nous a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formé un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. À chacun de nous, frères et sœurs, selon les dons qu'il nous a donnés, nous sommes appelés à s'édifier dans la vérité qui nous vient de sa parole pour grandir dans la stature parfaite de Christ, pour croître en maturité, pour découvrir la vie qu'il a pour nous et pour pouvoir faire connaître son évangile au monde qui a tellement besoin. Prions. Seigneur Dieu, on veut dire merci ce matin pour ta parole, pour ton grand salut, Seigneur. Ta parole nous dit que ta colère demeure. Elle est là. Mais que dans ta grande patience, dans ton grand amour, tu nous as donné ton Fils, qui est venu prendre cette colère à notre place, pour que nous soyons réconciliés avec toi et que nous soyons en paix avec toi, pour que nous n'ayons pas à voir, comme Josias, la colère qui va tomber sur les hommes. Seigneur, ce matin, on veut aussi te dire merci pour la parole que tu nous as donnée. qui nous aide à te découvrir, à te connaître profondément, pour avoir des vies transformées, pour pouvoir vivre, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, dans ce monde des ténèbres. Seigneur, on ne veut pas être une église qui a plein de bibles sur des tablettes et qui ne prend pas ou qui n'exerce pas la discipline de la lire, de l'étudier, de tenter de l'expliquer, de la comprendre. On veut être une église, Seigneur, qui est reconnue comme une église qui se penche vers ta parole, qui étudie ta parole, qui découvre ta parole et qui met en pratique ta parole. Seigneur, sois glorifié à travers ton peuple. Encourage-nous cette semaine par ta parole, par ton esprit. Seigneur, nous prions que si les gens ici ne te connaissent pas comme Seigneur et Sauveur, que par ton esprit, tu puisses les amener au pied de la croix pour qu'ils puissent trouver en Jésus le pardon, ton amour, le salut, la vie, la liberté que tu offres à ton Fils. Merci Seigneur Jésus. Amen.